L'art du théâtre par Sarah Bernard. Troisième partie. Impression, jugement, souvenir.
Lue par Christiane Johan pour audiocité.net.
Poésie. Aucun conseil d'aucun grand comédien ne peut donner du génie à l'artiste qui se destine au théâtre. À peine peut-on lui donner du talent. Encore faut-il agir sur des dons innés, tirer parti de telle ou telle qualité que la nature a dispensée au jeune néophyte, accentuer tel caractère, réfréner tel autre. Le reste, c'est-à-dire le succès, est affaire de volonté tenace et sans découragement devant les multiples obstacles dont la carrière est parsemée. Volonté de parvenir au premier rang, mais avant tout d'y parvenir grâce à sa foi, à son talent,
au rayonnement
que l'on fait jaillir des œuvres, à la vie dont on anime les personnages, auxquels le génie des poètes et des dramaturges a donné le jour. Le conservatoire a pour tâche de former les tragédiens et les comédiens. Ainsi que j'ai tenté de le démontrer, il s'agit simplement pour les professeurs de veiller aux qualités physiques des néophytes susceptibles de perfectionnement, c'est-à-dire la voix, la prononciation, le geste. La perfection de la diction ne vient que de la perfection de cet ensemble que la flamme intérieure part de l'émotion sensible au public. Nul professeur ne peut rien contre les torts de la stature et les disgrâces des proportions du corps, rien contre l'absence de mémoire, rien contre l'absence de voix, rien non plus contre l'absence de cœur, d'âme, de nerfs et de l'intelligence nécessaire à la compréhension des rôles et des intentions de l'auteur. En somme, la tâche du professeur est celle d'un patient gardien qui répète sans cesse à ceux qu'il a pour mission de surveiller les trois ou quatre défauts dont ils doivent se débarrasser. Vous ouvrez trop la bouche, vous dites « oh » au lieu de « ah », vous marchez mal, et cela inlassablement, afin de corriger peu à peu des habitudes naturelles déplacées sur la scène où tout est au service de l'art. Patience et travail. Surtout patience. Si vous brûlez du feu sacré, vous triompherez. Si au contraire, vous n'avez en vue que les plaisirs dont vos illusions entourent la carrière d'acteur, ivresse du succès plus ou moins équivoque, vous trouverez peut-être un jour ce que vous cherchez, pour quelques années, quelques mois, peut-être quelques jours, pour le perdre plus sûrement après un court laps de temps et retomber dans l'obscurité besogneuse et la déchéance irrémédiable. Et plus probablement encore, vous n'obtiendrez aucun des plaisirs désirés et vous végéterez au milieu de difficultés sans nombre. Au cours de ma longue vie, j'ai pu me convaincre de la nécessité de cette volonté intérieure pleine de lumière et de la chaleur de la foi dans l'art et dans la vie. Et lorsque je me remémore les diverses circonstances de ma carrière, depuis ma sortie du couvent jusqu'aux tournées que j'ai faites à travers le monde, je crois que beaucoup peuvent y puiser un enseignement. Sans doute, alors que j'étais fillette, c'est vers Dieu et la religion que mon âme semblait se tourner. Et lorsque ma famille me dirigea vers l'art du théâtre, je ne pensais pas avoir la vocation. Mais il est bien probable que sous le sentiment religieux et mystique qui était le mien, dormait l'amour de la poésie et du beau. Celui-ci se dévoila peu à peu dans une lente transformation de mon cerveau. N'était-ce pas lui qui déjà me faisait prendre tant de plaisir aux soirées du jeudi au couvent, dans lesquelles les élèves répétaient des fables ou des vers choisis dans les poésies de Madame Desbordes de Valmore. J'avais toujours un grand succès personnel dans l'oreiller d'une petite fille. Ce sont de pauvres petits vers rococo qui me faisaient pleurer à cette époque. Je me figurais pénétrer dans un monde inconnu et mystérieux, celui de l'art. Je n'avais pas connu Rachel, et l'idéal que je me créais me fut suggéré par Mademoiselle Maria Favard. Je la pris pour modèle. Être une Favard devenait mon rêve. Je m'appliquais à l'imiter et je le fis avec une telle liberté d'esprit que je m'aperçus avec horreur que mon idole avait un procédé. Maria Favard était fort prisée. Le charme bourgeois et pudique qui se dégageait de toute sa personne distinguée enchantait le public, bien qu'elle fût mal proportionnée. Sa tête était trop grosse, son buste trop long, ses jambes trop courtes. Elle remportait un immense triomphe dans le rôle d'Andromaque dont elle disait les vers d'une voix grave et traînante. Une scène particulièrement me frappait. C'est celle dans laquelle Céphise pousse Andromaque à épouser Pyrrhus. Favard disait les premiers vers en sanglotant et à peu près horrifiée par l'évocation de son souvenir, elle haussait le ton jusqu'au sommet du pathétique, après quoi ses larmes, son angoisse et l'âpreté de sa voix tragique, tout disparaissait dans le déblayage et dans un faux naturel que les applaudissements de la salle délirante accueillaient avec enthousiasme. Je voulus imiter Favart dans cette même scène. Ce fut bien vainement. Je ne pouvais comprendre les raisons intérieures qui guidaient mon idole dans son interprétation du désespoir d'Andromaque, replongé dans les plus douloureux souvenirs d'une nuit terrible. J'usai d'habileté et réussis à voir Maria Favart. Régnier me présenta Delaunay, et celui-ci m'introduisit auprès de la tragédienne et lui expliqua le motif de ma visite. Je fus tout de suite déçu. Favart m'accueillit prétentieusement en roulant les airs. Elle se fit donner la réplique par une jeune fille et me répéta la scène en question pour que je comprenne mieux ce que je désirais savoir. Je compris si bien, en effet, que j'en restai bouche bée et ne pus ni dire merci ni articuler aucun autre son. Favart prit ma stupéfaction pour un violent effet de l'admiration. Le voile pourtant s'était déchiré. Mon idole n'était plus une idole. Ce n'était plus qu'une femme à grosse tête, au regard sans expression, et qui interprétait les sentiments et disait les vers d'une manière factice, se bornant à l'emploi d'un procédé qui touchait les auditeurs avec la même invariable banalité en faisant appel à une sensibilité grossière et sans noblesse. Elle me fit répéter la scène en vibrant. Cela ne servit à rien. À partir de ce jour, je pensais à me créer un idéal à moi, je ne voulais plus ressembler à aucune autre, et je disais « je serai moi ». Pour atteindre ce but, je comprenais que la route était malaisée. Je fus assidue, énergique et travailleuse. Je ne manquais aucune classe, pas même celle de maintien du père Élie. Le maintien. Savez-vous ce que c'est que le maintien ? Marcher, s'asseoir, se tenir debout, faire un geste, avec grâce, avec harmonie. Oui, cela s'enseigne, paraît-il. Et le pauvre monsieur Élie, fardé et frisé, vieux beau, tout paré de dentelles, nous le faisait bien voir. Son enseignement se synthétisait dans les courbes de sa baguette noire qu'il tenait toujours à la main. « Allons, mesdemoiselles, le corps rejeté en arrière, la tête haute, la pointe du pied en bas, là, parfait, un, deux, trois, marchez !» Nous marchions, la pointe du pied en bas, la tête haute, la paupière tombant sur l'œil qui cherchait à voir où se posait le pied. Nous marchions avec la solennité des chameaux. Il y avait aussi les sorties. Nous apprenions à sortir. Le sentiment guidait le pas. Il fallait gagner la porte avec nonchalance, avec fureur, avec noblesse et dignité, d'un pas traînant ou pressé. Il y avait les injonctions sans réplique, mais sans parole aussi, car il ne fallait pas dire un mot. « Tout, disait le père Élie, tout est dans le regard, le geste, l'attitude. » Et nous faisions des « Assez, monsieur, sortez !» À qui mieux mieux. Enfin, il y avait l'assiette. S'asseoir avec dignité, se laisser tomber avec accablement. Une assiette était particulièrement compliquée. C'est celle qui voulait dire « Je vous écoute, parlez, monsieur. » Désir de savoir, crainte d'entendre, résolution d'éloigner, volonté de retenir, tout y était, c'était affolant. Mais il y en avait bien d'autres. L'assiette révoltée, le corps droit, le nez ouvert, les bras raidis. L'assiette découragée, la tête basse, les bras ballants. L'assiette ironique. Oh, celle-ci, je m'en souviens trop. Le corps renversé, la bouche relevée sur le côté, le rire dans l'œil et d'imperceptibles haussements d'épaules. Que de travail pour oublier tout ce que le pauvre homme s'acharnait à nous enseigner. Rien n'est moins utile que ces classes de maintien. Chaque être se meut selon ses proportions et selon ses aptitudes. Le geste est l'expression de la pensée. Il est bête si l'artiste est nul, harmonieux si l'artiste est intelligent. Que peut faire une femme trop grande si ce n'est des enjambées? Les toutes petites sautillent, celles qui ont les jambes courtes marchent bambant, les grues marchent en grue, les trop grasses marchent en canne, et les cambrées vont à l'orientale. Ceux ou celles qui ont les bras trop courts ne peuvent faire un beau geste. L'enseignement de tous les pères Élie du monde n'y peut rien faire et ne peut remplacer les bras courts par des bras longs. Toutefois, Élie disait une chose très juste. Le geste doit précéder la parole. Le conservatoire a oublié cela et ne l'enseigne plus. Il faudrait cependant tenir compte de cette remarquable observation que je dépasserai en disant « Le regard doit précéder le geste, lequel précède la parole qui n'est, elle, que la formule de la pensée. » De cela, je puis donner un exemple pris dans la Tosca. Épuisée de douleur et brûlée de fièvre, Tosca étend la main pour prendre un verre et humecter la brûlure de sa lèvre. Sur la table, il y a un couteau. L'idée se dresse dans son esprit. Tuer le tortionnaire. Alors son regard va vers lui, retourne au couteau, et sa pensée, libérée par le regard et le geste, laisse échapper les cris « Meurs, meurs, lâche !» Si l'artiste, en voyant le couteau, s'en emparait de suite et tuait le misérable en poussant le même cri de rage, sans avoir fait précéder le cri du regard et du geste, l'action serait moins saisissante. Le public, dont l'attention serait aussitôt attirée par une nouvelle période de la pensée, n'aurait reçu qu'un choc sans contrôle et ne comprendrait pas cette action. C'est pourquoi l'art du dramaturge et celui du comédien sont intimement liés l'un à l'autre. L'art du comédien est le plus délicat à élaborer puisqu'il est responsable des grands cerveaux qui lui confient leur effort. Le souvenir que j'ai conservé des leçons de M. Élie relatives au maintien et au geste se rapproche dans mon esprit du souvenir inoubliable d'une petite aventure qui m'intimida fort un jour. C'était aux Tuileries. Nous devions jouer, Agar et moi, la délicieuse pièce de François Copé, Le Passant, que nous avions créée à l'Odéon. Mais avant le jour de la représentation, il fallait procéder à l'installation de quelques accessoires, répéter et à cette occasion être présenté à l'empereur et à l'empératrice. Déjà introduite dans un petit salon du rez-de-chaussée, j'attendais avec mon amie Madame Guérard et le comte de la Ferrière qui devaient faire les présentations. Celui-ci sortit et alla prévenir Sa Majesté. J'en profitai pour répéter mes trois révérences. Je saluai en murmurant « Sire, sire ». Plusieurs fois, je recommençai en plongeant dans ma robe, les yeux baissés « Sire, sire, sire ». Un rire étouffé vint m'arrêter en pleine révérence. Je crus à une moquerie de Guérard. Je me redressai furieuse, mais Guérard plongeait profondément. Derrière moi, l'empereur riait en tapant doucement dans ses mains. J'avais plongé je ne sais combien de fois, rectifiant mon salut et disant « Ça, ce n'est pas assez bas. Ça, c'est trop haut.
Ça, c'est trop bas.
Ceci n'est pas mal, n'est-ce pas, Guérard ?» Il avait vu tout cela. Malgré ma confusion, j'esquissai une révérence. Mais Napoléon m'arrêta en souriant. « Inutile, me dit-il. Cela ne sera jamais plus joli que tout à l'heure. Réservez-les pour l'impératrice qui vous attend. » Ce « tout à l'heure » me troubla vivement durant tout le temps de la présentation et de la visite. Je restai distraite aussi bien devant l'empereur que devant l'impératrice. Personne n'est à l'abri de pareilles mésaventures. N'en arriva-t-il pas une petite d'un ordre presque semblable à l'impératrice même à l'issue de la même représentation du passant? J'en fus témoin à travers la fente du rideau. Durant la représentation, l'impératrice Eugénie, qui avait de fort jolis petits pieds, se trouvait à l'étroit dans ses souliers, qu'elle tenait sur un coussin d'argent. Et discrètement, un des talons avait quitté son abri cruel, et le pied n'était plus chaussé que par le bout. La pièce finie, impossible au petit pied de réintégrer sa prison. Il y avait là la reine de Hollande et le prince d'Orange, et une foule admirative dont la présence augmentait la gêne anxieuse de Sa Majesté. Il fallut un rempart de généraux et d'officiers d'ordonnance pour permettre à l'impérial petit rebelle de rentrer à nouveau dans le soulier trop étroit. Enfin, tout fut dans l'ordre, et ce ne furent plus que divertissements. J'ajouterai, ce qui sort du sujet de cette anecdote, que Agar et moi, nous fûmes entourés, choyés, adulés. La grâce et le charme de la poésie du délicieux et timide Copé étaient bien la principale cause de ce succès. C'est ainsi que j'aimais, comme je les ai toujours aimés, par-dessus tout, dire les vers. Je les préfère à la prose. J'étais alors à l'Odéon. Un jour de répétition, Chili, un des directeurs, heureusement Duquesnel était son associé, Chili vint me trouver et me dit « C'est très bien ce que tu fais, mon enfant, mais on sent trop que tu dis des vers. Tu fais sentir la césure et la rime. » Je m'écriai aussitôt, « Mais l'alexandrin est fait de deux ailes pour l'envol de la pensée, et les rimes sont les difficultés vaincues par le poète. Il faut que le public les entende, les apprenne. Il faut qu'il sache avec quelle générosité le poète reste vainqueur de tous les obstacles. » Une voix murmura derrière moi, « Ah, dites, dites mes vers, comme vous les avez dit tout à l'heure, et je baiserai la traîne de votre manteau. » M'étant retourné, je vis devant moi le grand jeune homme pâle et mince, les yeux pleins de larmes, qui ressemblait à Napoléon, à Brienne. C'était François Copé. Je lui sautai au cou. Ah, comme j'étais loin de l'oreiller d'une petite fille. Je ne disais plus d'une voix naïve et tremblante, qui ignore encore la subtile musique de la mystérieuse poésie. Laisse descendre au soir un ange qui pardonne, pour répondre à des voix que l'on entend gémir. Mais sous l'enfant perdu que la mère abandonne, un petit oreiller qui le fera dormir. C'est que déjà j'avais dit bien des vers. Au conservatoire, j'avais passé mon premier concours dans Zaïre. Frappe, dis-je, je l'aime. Malgré Provost, j'étais tombé aux genoux de Nérestan avec un sanglot convaincu, les bras ouverts, ouvrant mon cœur plein d'amour au coup mortel que j'attendais, et j'avais murmuré ce « frappe » avec tendresse et non avec violence. Mon second concours avait été nourri de Casimir de Lavigne, tragédie et comédie. Des vers, oui, mais pas de la poésie. Peu après engagé à la Comédie-Française, je débutais dans Iphigénie, de Racine, puis dans Les Femmes Savantes, où j'obtins un réel succès qui attira l'attention sur moi. C'est d'ailleurs cette pièce et mon rôle d'Henriette qui fut la cause indirecte de mon départ de la Comédie-Française. Une illustre sociétaire qui jouait le rôle de Philaminte, Madame Nathalie, la plus méchante des femmes, se moquait de moi sans retenue parce que j'étais jeune débutante et ne cessait de me harceler si bien que je finis par la gifler avec force. Scandale, sommé de m'excuser, je donnai ma démission. Engagé à l'Odéon, j'y déclarai les vers de Racine dans le rôle du jeune Zacharie, d'Athalie, et ceux du passant, de François Copé. J'y remportai un triomphe. J'étais Annette, il m'enivrait d'harmonie, de rythme exquis, de poésie lunaire, et je suivais ma voix qui allait baigner l'attention anxieuse du public et lui portait pour la lui faire partager la beauté mélancolique et charmante de cet art délicieux. Je veux un souvenir et non pas une aumône, un rien mais qui soit bien à vous. Tenez, je veux la triste fleur qui meurt dans vos sombres cheveux. Il faut bien l'avouer, l'Odéon était pour l'art et la poésie un sanctuaire plus jeune et plus vivant que la Comédie-Française. À l'Odéon, on ne respirait que des rêves, on ne marchait pas, on battait des ailes. Quelle différence entre les acteurs de ces deux théâtres comme entre leur public. À la Comédie, les artistes solennels étaient arrivés au but de leurs efforts. À quoi bon en faire d'autres? Le public de vieux abonnés n'en demandait pas tant et se contentait du respect des traditions. Oh, ces traditions! Combien d'artistes, à la volonté novatrice et sincère, se sont trouvés entravés par elles. Pour ma part, je me souviens de toutes les turpitudes qui me furent débitées quand je jouais Phèdre pour la première fois à la Comédie-Française. Il est des traditions auxquelles il ne faut pas résister, sous peine d'être brisé. Il en est aussi de moins terrible. Je me rappelle un petit fait comique. Un vieil abonné vint me trouver, c'était un professeur en Sorbonne, et me dit sèchement, « Mademoiselle, c'est un manque de respect que de tourner le dos au public. » Mais, monsieur, je reconduisais vers la porte du fond une dame âgée. Je ne pouvais cependant pas la conduire à reculons. Les artistes qui vous ont précédé, mademoiselle, et qui avaient autant de talent que vous, si ce n'est plus, trouvaient le moyen de remonter la scène sans tourner le dos au public. Il vira vivement sur ses talons. Je me hâtai de le retenir. « Pardon, monsieur, voulez-vous gagner cette porte ainsi que vous alliez le faire sans me tourner le dos ?» Il esquissa un essai, mais furieux et rageur, il me quitta en me tournant le dos et en faisant claquer la porte. Il y a aussi les traditions morales qui touchent à la légende. J'ai voulu parfois, en compagnie d'un auteur, forcer le public à revenir vers la vérité et détruire le côté légendaire de certains personnages que l'histoire d'aujourd'hui nous représente tels qu'ils furent en réalité. Le public ne m'a pas suivi, et je me suis vite rendu compte que la légende reste victorieuse en dépit de l'histoire et qu'il est préférable de lui céder. Qu'est-ce que Jeanne d'Arc? Est-ce la paysanne robuste, la gaillarde fruste, soumise aux promiscuités de son époque barbare parmi les soldats qui plaisantent grassement? Non, c'est un être frêle, conduit par une âme divine. Un ange invisible soutient son bras, porteur du lourd étendard. C'est la légende qui nous intéresse. Nous l'avons forgée suivant notre volonté. Elle reste triomphante. Depuis ces temps lointains auxquels je fais allusion, j'ai interprété bien d'autres œuvres de poètes. Il n'en est pas pour moi de plus cher que celle du merveilleux Edmond Rostand. Mais sans doute n'aurais-je pas pu jouer l'aiglon comme je l'ai joué si j'avais été au début de ma carrière. J'ai dû suivre une lente évolution, apprendre, apprendre et toujours apprendre, au contact sans cesse renouvelé des œuvres diverses qui venaient vers moi. Je me suis assimilé la technique si innombrable des poètes qui se succèdent au cours des années, comme les vagues de la mer. Et moi-même, je me suis inconsciemment créé une technique personnelle afin de rendre plus sensible la musique sonore des vers, la mélodie du verbe, comme la musique et la mélodie de la pensée.
Pourquoi je n'ai pu interpréter Corneille? À l'issue de la représentation du Passant que nous donnâmes aux Tuileries, l'empereur Napoléon III vint nous complimenter, Agar et moi, dans le petit salon qui nous était réservé. Il y mit une bonne grâce délicieuse. « Je vais bientôt jouer Camille dans Horace, de Corneille, » dit Agar. « Je serais bien heureuse si votre majesté daignait honorer cette représentation par sa présence. »« C'est bien, » répondit le souverain. « J'irai vous voir, quoique je préfère Racine. » Je l'aurais embrassé pour cette bonne parole, car moi aussi, je préfère Racine. En vérité, je préfère Racine et n'ai jamais joué de Corneille. J'ai essayé pour moi seule et j'y ai renoncé de bon cœur. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais un grand penchant pour Racine et de l'horreur pour Corneille. La raison en est simple. À mon sens, Corneille, le sublime Corneille, ne sait pas faire parler la femme. Aucune de ses héroïnes, il faut en excepter Psyché, n'est vraiment une femme. Elles pérorent, leur cœur n'est pas dans leur poitrine, mais bas dans leur tête. Leur amour est subtil et compliqué, et surtout ergoteur. Bien des personnes, en particulier M. Perrin, administrateur de la Comédie-Française, et mon camarade Mounet Sully, m'ont supplié de faire abstraction de cette antipathie. J'ai accepté de jouer Chimène, l'héroïne du Cid, plus de 20 fois. Et plus de 20 fois j'ai renoncé. Je ne pouvais interpréter un caractère aussi faux, aussi versatile, aussi peu humain. Je trouve Corneille souvent surhumain, jamais humain. Je ne sais pas faire de la critique dramatique, mais j'envisage les rôles féminins de Corneille au sujet de leur interprétation par des femmes. C'est une femme qui interprète Camille, qui joue Chimène. Il faut au moins que ces rôles comportent des sentiments féminins, et je ne les vois pas. Chimène est une odieuse et prétentieuse créature. Dès qu'elle apprend la querelle de son père et du père de Roderick, son fiancé, elle s'écrie « Mon cœur, outré d'ennui, n'ose rien espérer. Un orage si prompt qui trouble une bonasse, d'un naufrage certain nous porte la menace. Je n'en saurais douter, je péris dans le port. » Ah, ce cœur, outré d'ennui, me fait horreur. Et ce grand amour, la bonasse, menacé par la querelle des deux pères, l'orage, qui sera cause du naufrage des deux amants, et qui l'a fait périr, elle, dans le port. Tout cela est bien lourd, amphigourique, alambiqué et commun. Puis, quand elle apprend la mort de son père, tué par son amant, elle vient se jeter aux pieds du roi et s'écrie « D'un jeune audacieux, punissez l'insolence ». Est-ce ainsi que s'exprimerait la vraie douleur? Cette douleur, ainsi elle l'exalte durant 12 vers, après quoi elle tombe épuisée. Le roi la voit écrasée et sans voix la console doucement, et la pauvre écrasée retrouve sa voix tout à coup, se redresse et se révèle une véritable furie. Et c'est un long monologue durant lequel Chimène n'a pas une expression juste. Elle évoque la plaie de son père, qu'elle montre comme une bouche implorant la vengeance après avoir dit que le sang sorti du flanc traçait sur la poussière son devoir. Puis elle insinue au roi que s'il ne punit le jeune audacieux, il éteindra l'ardeur de le servir dans le cœur de tous ceux qui l'entourent. C'est donc pour l'intérêt du roi, non pour son obligeance à elle, qu'elle réclame la tête de son amant. Je la trouve sans naturel, sans impulsion, sans amour. Et je n'ai pu, malgré mon vouloir,
trouvait assez de génie et d'émotion en moi pour servir cette douleur. Au troisième acte, l'amphigourie ne connaît plus de bornes. Chimène dit à Elvire, « Pleurez, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en eau. La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau, et m'oblige à venger, après ce coup funeste, celle que je n'ai plus, par celle qui me reste. » Ce quadrille de moitié touche au ridicule, et Chimène ne me semble plus qu'une ergoteuse sans fièvre et sans passion. Elle est d'ailleurs, durant toute la pièce, hantée par sa gloire. Elle parle trop de gloire et pas assez d'amour. Il n'y a en elle ni amour ni douleur. Cette Chimène n'est femme que par le côté versatile et parce qu'elle ne sait jamais ce qu'elle veut. Ce n'est pas assez pour m'encourager à dire les vers raisonneurs que lui a prêté Corneille. Et Camille, cette autre héroïne, cette fiancée de Curias. Elle dispute avec Julie du pour et du contre du rêve qu'elle a fait, puis croyant que Curias a lâchement renoncé à la bataille par amour pour elle, elle l'en remercie. Mais elle ergote sur ce que va dire son père et dit à son fiancé Curias, « Mais as-tu vu mon père? Et peut-il endurer qu'ainsi dans sa maison tu t'oses retirer? Ne préfère-t-il point l'État à sa famille? Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fille? Etc. etc. » Et comme Curias se récuse avec justice contre le sentiment de lâcheté que lui impute sa maîtresse, et lui raconte par quel revirement la bataille des deux peuples albains et romains sera convertie en duel de héros choisis dans les deux camps, Camille s'écrie « Ô Dieu, que ce discours rend mon âme contente !» C'est tout ce qu'elle trouve à dire. Plus tard, sachant qu'il est choisi comme combattant, elle l'exhorte à la lâcheté, et elle continue dans un pathos alourdi à discuter, à espérer sans espoir, à pleurer sans larmes, jusqu'au moment où elle apprend que Curias vient d'être tué par son frère Horace. Elle n'a qu'un mot, hélas. Oui, c'est tout ce qu'elle trouve à dire en écoutant le plus interminable des récits, mais en même temps le plus douloureux pour son amour. Elle ne s'enfuit pas pour s'écraser de douleur, non, elle reste là, tandis que le vieil Horace et Valère
se congratulent mutuellement.
Et quand ils sont partis, n'ayant plus de partenaire pour une nouvelle discussion, elle raconte ses malheurs au public qui déjà vient de les entendre, et elle ergote pendant 56 vers. Enfin, voyant arriver Horace, elle marmonne, « Il vient, préparons-nous à montrer constamment ce que doit une amante à la mort d'un amant. » Ainsi, dans la crise d'hystérie furieuse qui termine la période et qui serait justifiée si elle était spontanée, elle se montre peu à peu parce qu'elle l'a voulu préméditer, non par la douleur, mais par le vouloir de déplaire à son frère. Elle l'a dit dans son soliloque, et prenons, s'il se peut, plaisir à lui déplaire. En effet, elle arrive à lui déplaire, à tel point qu'il la tue. Il est certain que le morceau de Camille, Rome, l'unique objet de mon ressentiment, Rome à qui vient ton bras d'immoler mon amant, est une superbe envolée, mais il est d'une furie et non d'une amante désespérée. Les élèves tragédiennes du conservatoire le prennent souvent comme concours, et elles n'ont pas tort. C'est ce qu'on peut appeler le morceau à effet. J'ai étudié, non au conservatoire, j'étais trop jeune et trop faible de voix pour cette étude, mais j'ai étudié depuis Camille. J'ai même promis à Perrin de le jouer, et plus je l'étudiais, plus je haïssais cette Camille. Un de nos plus grands poètes, Catulle Mendès, était passionné pour Corneille. Il prit à tâche de me faire revenir sur mon aversion pour ses héroïnes, et il s'y employa avec cette grâce pleine de fougue, cette science d'éducation, cette connaissance profonde de nos classiques qu'il possédait au plus haut degré. Il n'obtint aucun résultat. Est-ce mon amour profond pour les femmes de Racine ? Est-ce ma nature artistique qui ne peut se prêter à ces vers lourds et pompeux? Je ne sais. Mais après avoir appris et étudié à fond Chimène, Camille et Pauline de Polyeucte, j'ai renoncé à tout jamais à jouer du Corneille. Ah, cette Pauline qui débute comme une suffragette provinciale, tu vois, ma Satronice, en quel siècle nous sommes, voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes. Ce n'est pas une femme, c'est un avocat. Ou une avocate. C'est comme les autres héroïnes cornéliennes, elles discutent, ergotent, avec ces vers qu'elle aime toujours, d'amour, alors qu'elle n'aime Polyeucte que par obéissance, avec son père qui lui reproche cette obéissance, et qui l'eût voulu voir rebelle. Elle non plus n'a pas de cœur. Rien ne me fatiguait plus que l'étude des caractères femmes de Corneille. Je m'arrêtais sans cesse et restai des heures à chercher le pourquoi des revirements de ces cœurs. Et je finis par me convaincre que ces cœurs n'existaient pas. Les héroïnes de Corneille ne sont que des cerveaux dissemblables de ceux des hommes par l'hésitation de leurs sentiments, par leur brusque changement dans la manifestation de leur amour. Elles se distinguent des hommes par leur hystérie, ce sont des raisonneuses hystériques. Ah, que je me sentais loin des femmes de Racine, qui restent femmes sous l'héroïsme de leurs sentiments. Racine et Corneille traitèrent tous deux le même sujet, Bérénice. Combien ces deux femmes sont loin l'une de l'autre. Toutes deux aiment Titus, et toutes deux expriment leur douleur de devoir se séparer, par raison d'état, de cet empereur dont Rome exige l'hymen avec une Romaine, et non une Bérénice reine de Palestine. Mais voici la femme de Corneille. Elle ne pense qu'au « qu'en dira-t-on ? » Son orgueil seul réclame. Il n'est pas question d'amour, mais de préséance. C'est odieux. Au moment de briser à jamais les liens qui depuis 5 ans les tient enchaînés l'un à l'autre, Titus et elle, dans une perpétuelle espérance de l'union définitive, elle ne trouve qu'une apostrophe emphatique et embrouillée. Et voici la Bérénice de Racine. « Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous ? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus ? » Grâce et douleur, et quel mot pour l'exprimer ! Combien cette Bérénice est une femme ! Elle essaie de dissimuler sous les reproches. Elle veut cacher sa douleur. Mais le mot à Dieu déchire son cœur, elle ne peut plus. Les femmes de Racine sont la femme de tous les siècles, depuis la naissance du monde jusqu'à maintenant. Elles sont celles qui viendront demain, qui naîtront toujours. Faut-il parler de Phèdre ? Voilà bien la plus touchante, la plus pure, la plus douloureuse victime de l'amour. Oh, elle ne cherche pas à ergoter. Aussitôt qu'elle voit Hippolyte, elle saisit la main de sa nourrice et la porte envers son cœur, elle murmure, presque pâmée d'émotion. Le voici, vers mon cœur, tout mon sang se retire, j'oublie en le voyant ce que je viens lui dire. Quelle phrase simple ! Il semble que ce soit une femme d'aujourd'hui qui parle. Le voici, sent comme mon cœur bat fort. Une femme du peuple s'écrierait « Ah, bon Dieu, le voici, mon sang n'a fait qu'un tour !» Et la déclaration de Phèdre, quel chef-d'œuvre ! Elle vient implorer pour son fils. Elle sait Hippolyte loyal, elle réclame son appui. Et dans les 11 vers qui suivent, il y a tout, absolument tout. Elle demande appui pour son fils en annonçant sa propre mort prochaine, ce qui facilitera la tâche d'Hippolyte. Elle excite le courage de celui-ci, et elle lui exprime sa crainte d'avoir fermé à la pitié ce cœur généreux par ses procédés contre lui. Et combien humaine est sa défense ! Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. Ceci, c'est le commencement de l'aveu, mais elle ne dira pas son secret, elle ne veut pas le dire. Il va lui échapper dans son cri de révolte contre les dieux. « Ah, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester, de cette loi commune a voulu m'accepter, qu'un mal bien différent me trouble et me dévore. » Elle a dépassé sa volonté, elle vient de se trahir. Un homme plus expérimenté aurait compris son cri de désespérance. Mais il lui fournit, sans le vouloir, les arguments qui le conduiront insensiblement à l'aveu. Et peu à peu, hypnotisé par la réalité présente de son rêve, qui hante depuis des mois toutes les heures de sa vie, elle perd la notion des lieux et des êtres. Elle parle en somnambule et répète tout haut ce qu'elle murmure dans ses angoissantes insomnies. L'exclamation d'Hippolyte la réveille, elle balbutie, et honteuse, désemparée, meurtrie, elle crie la vérité et réclame la mort de la main de celui qu'elle offense en adorant. Et tout cela, c'est l'amour, c'est la douleur, c'est la vie, avec sa tare éternelle. Je n'ai jamais vu Rachel, mais il paraît qu'elle était admirable dans Phèdre. J'ai vu d'autres tragédiennes dans ce rôle, mais je n'ai jamais compris le pourquoi de leur interprétation qui faisait de Phèdre une vulgaire passionnée ou une névropathe en fureur. D'ailleurs, j'ai remarqué que les artistes remarquables dans Corneille interprétaient mal Racine. Il faut sans doute en excepter Rachel qui, dit-on, était aussi merveilleuse animatrice des héroïnes raciniennes que des cornéliennes. Peut-être ceux qui liront ces lignes comprendront-ils les raisons qui m'ont guidée lorsque j'ai incarné les personnages de Racine. Attachée au lyrisme de ce verbe harmonieux, à la vie profonde de ses sentiments, je me suis souvenu que la Champmeslée, qui créa Phèdre, était, au dire des historiens, une créature de beauté et de grâce, et non une forcenée, et j'ai tenté de pénétrer le charme du mystère de l'art racinien pur et touchant pour le rendre plus sensible au public, trop enclin à ne trouver en ces tragédies que des souvenirs de collège. Pourquoi j'ai joué des rôles d'hommes ? On m'a souvent demandé pourquoi j'aime tant à représenter des rôles d'hommes, et en particulier pourquoi j'ai préféré celui d'Hamlet à celui d'Ophélia. En réalité, je ne préfère pas les rôles d'hommes, mais les cerveaux d'hommes. Et parmi tous les caractères, celui d'Hamlet m'a tenté entre tous, parce qu'il est le plus original, le plus subtil, le plus torturé, et cependant le plus simple pour l'unité de son rêve. Cet être d'apparence si complexe n'a qu'une idée, venger son père. Cette idée, il est vrai, se décompose en deux parties. D'abord, est-il certain que la mort du père soit le fait d'un crime? Ensuite, n'y a-t-il point dans ce drame et les circonstances qui l'entourent une part d'invention du malin? C'est autour de la première incertitude que gravitent et redescendent sans cesse les soupçons, les inquiétudes, les remords, les terreurs, d'être le jouet de l'esprit de l'enfer. Quand son père lui apparaît, Hamlet redoute encore le malin qui prend les apparences de l'être aimé pour mieux tromper. Et nous le voyons se débattre dans les plus douloureuses alternatives. Quelques-uns prétendent qu'Hamlet est fou. Pour ma part, je me refuse à accepter cette version. Je le trouve le plus sensé, le plus rusé, mais le plus malheureux des hommes. Il se torture, il se trouve lâche, et cependant la crainte d'être le jouet de l'esprit de l'enfer le reprend sans cesse. Il y discute avec lui-même, échafaud d'un projet qui mettra sa conscience en paix. Il va faire lui-même le schéma d'une pièce représentant l'assassinat de son père tel qu'il fut raconté par l'ombre de celui-ci. Tout cela est d'un être très sensé, d'un penseur et non d'un fou. Dans le fameux monologue « Être ou ne pas être », Hamlet se dévoile complètement. La vie lui est à charge, et cependant il n'ose se tuer. Son appel de tous les doutes est navrant. Quelles ne sont pas ses incessantes souffrances de voir sa mère, qu'il aime, la femme aimante de l'assassin de son père ? Il se débat contre les pensées qui l'assiègent. Et toute la psychologie du caractère d'Hamlet nous est révélée par lui-même. Ce qui indique bien qu'Hamlet a toute sa raison, c'est qu'il combine avec une grande maîtrise et une admirable adresse son plan d'investigation dans la conscience du roi, son oncle. Et quand enfin il est persuadé que ce dernier est l'assassin de son père, de quelle joie intense ne se sent-il pas transporté à l'idée d'être délivré ? L'incertitude ligotait l'explosion de sa vengeance. Le voilà libéré, il pourra venger son père. C'est certainement une grande joie pour un artiste de pouvoir interpréter un caractère aussi complexe. J'ai eu cependant de longues années le désir de jouer Hamlet, et je ne me suis décidé que lorsque j'eus lu l'admirable traduction de Marcel Schwob. J'avais joué Ophélia dans l'Hamlet de Cressonnois, mais Ophélia ne m'apportait rien de nouveau comme étude de caractère. Un Anglais très érudit, très épris de Shakespeare, me demandait qui m'avait initié à ce mystérieux Hamlet. « Mais lui-même, lui répondis-je, chaque fois qu'Hamlet se trouve seul et dévoile le fond de son âme mystérieuse. » Les rôles d'hommes sont en général plus intellectuels que les rôles de femmes. Voilà le secret de mon amour. Il n'est pas de caractère féminin qui n'ait ouvert un champ aussi large pour les recherches des sensations et des douleurs humaines que ne l'a fait celui d'Hamlet. Phèdre seul m'a donné le charme de fouiller un cœur vraiment angoissé. Je puis dire que j'ai eu la chance rare, et je crois unique, de jouer trois Hamlet. Le noir Hamlet de Shakespeare, l'Hamlet blanc de Rostand, l'Aiglon, et l'Hamlet florentin d'Alfred de Musset, Lorenzaccio. Hamlet et le duc de Reichstadt ont l'âme désemparée par une mère indigne. La civilisation a mis une sourdine aux revendications du fils de Napoléon. Comme Hamlet ironise avec Horatio, l'Aiglon ironise avec son professeur. Prisonnier, non pas, mais... Dans les deux Hamlet, le noir et le blanc, même scène entre la mère et le fils. Scène brutale dans Shakespeare, mais effrayante de vérité et de sauvagerie. Dans Rostand, les mots sont choisis. La civilisation a modéré la colère, la courtoisie enveloppe le sarcasme, mais la douleur reste la même. J'ai aimé passionnément ces deux Hamlet. Le troisième, Lorenzaccio, est moins pur. Les moyens dont il se sert pour arriver à son but sont déshonorants, mais cela se passe sous la Renaissance. L'Hamlet de Shakespeare se débat contre les poignards, les pièges et les poisons. L'Hamlet de Rostand est ligoté par les fils invisibles de la politique. Plus il essaie de s'en défaire, plus il l'en sert. L'Hamlet de Musset est noyé dans les intrigues, les orgies et la somptueuse luxure, mais il a dans le fond de son âme la petite flamme qui illumine par moments tout son être. Ce n'est pas un père assassiné, un père déchiré et trahi qu'il a à venger. C'est une mère égorgée, et cette mère, c'est la patrie. Il se laisse bafouer et traiter de lâche pour arriver à ses fins. Il dévoile la véritable nature de son âme à Philippe Strozzi, le plus honnête homme des honnêtes hommes. Les écluses de son cœur meurtri, il les ouvre dans une magnifique envolée, et ce plaidoyer est d'une puissance incomparable. Je me sens frissonner dans tout mon être quand je deviens l'interprète du poète. Dans aucun caractère de femme, je ne retrouve une telle variété de sentiments, une telle puissance évocatrice. Il y a bien des rôles d'hommes que j'aurais voulu jouer, et parmi eux, Méphistophélès et l'avare. Mais une femme ne peut interpréter un rôle d'homme que lorsque celui-ci est un cerveau dans un corps débile. Une femme ne pourrait pas jouer Napoléon, Don Juan ou Roméo. Méphisto, oui, parce que c'est en vérité un ange déchu, l'esprit malin qui accompagne Faust. Un homme réel et pondéré, sain et vigoureux, non. À l'étranger, j'ai vu jouer Hamlet par plusieurs tragédiens, et j'ai toujours eu la sensation d'un désaccord entre la pensée dévorante et la plastique de celui que je voyais agir. Ces tragédiens me semblaient en trop belle santé, en muscles trop solides, pour exprimer tant d'insomnies désespérées, tant de combats intérieurs. La peine qui dévore ce malheureux Hamlet ne peut lui laisser les beaux mollets, l'estomac bombé, la belle carrure. Je sais bien que grâce au blanc, le teint est pâle, que grâce au noir, l'œil est cerné. Mais la belle apparence de santé de tout le reste du corps jette un défi à cette mine défaite. Hamlet, l'aiglon, Lorenzaccio sont des cerveaux hantés par le doute et la désespérance, des cœurs battant toujours plus fort et sans cesse torturés par leurs rêves évocateurs. L'âme brûle le corps. Il faut, en voyant et en entendant agir ces Hamlet, il faut qu'on ait la sensation que le contenu va faire éclater le contenant. Il faut que l'artiste soit dépouillé de virilité. Il nous fait voir un fantôme amalgamé des atomes de la vie et des déchéances qui conduisent à la mort. C'est un cerveau sans cesse en lutte avec la vérité des choses. C'est une âme qui veut s'échapper de son enlacis charnel. C'est pourquoi je prétends que ces rôles gagneront toujours à être joués par des femmes intellectuelles qui seules peuvent leur conserver leur caractère d'êtres insexués et leur parfum de mystère. Si j'avais été un homme, il me semble que j'aurais eu une si belle carrière. Toujours au théâtre, la part faite aux hommes est la plus belle. Et c'est cependant le seul art où les femmes peuvent parfois être supérieures aux hommes. Les plus grands peintres féminins, Rosa Bonheur, Madeleine Lemaire, Madame d'Ermont-Breton, Louisa Béma, Maud Herle, ont eu, à des degrés différents, un véritable talent. Mais pas une n'a approché de Raphaël, de Léonard de Vinci, de Rubens, de Velasquez, de Delacroix, d'Édouard de Taille, d'Alfred Stevens, de Bastien Lepage. En musique, pas une femme n'avait eu la chance de faire jouer un opéra avant Augusta Holmès. Cécile Chaminade est une pianiste virtuose et compositeur de grand talent. Mais aucune de ces deux femmes n'approche de Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Schumann, Gounod, Massenet, Saint-Saëns. En poésie, Madame Desbordes, Valmore, Ackermann, de Noailles, Lucie de la rue Mardrus, Rosemonde Gérard, de Régnier, Hélène Picard, Jeanne Catulle-Mendès ont toutes un immense talent. Mais elles sont loin encore des Ronsard, Racine, Victor Hugo, Lamartine, Musset, Edmond Rostand, Jean Richepin et de tant d'autres illustres. Je ne parle pas de la sculpture. Il n'y a pas de femmes réellement grands sculpteurs. Au théâtre, tout au contraire, les grandes artistes femmes sont plus nombreuses que les hommes. Nous savons que Néron fut un grand acteur, mais Théodora fut plus grande que lui. Roscius était, paraît-il, un acteur illustre, et le pauvre paya bien cher sa célébrité. Mais depuis 2 siècles, le nombre des artistes femmes qui ont illustré la scène française a dépassé le nombre des artistes hommes. Nous n'avons à opposer à Mademoiselle Duclos, Adrienne Lecouvreur, Clairon, La Champmêlée, Mademoiselle Georges, Mademoiselle Mars, Rachel, que Baron, Talma et Mounet-Sully. Et cela me paraît absolument logique. L'art théâtral me semble plutôt un art féminin. Il contient en lui-même cet art tous les artifices qui sont du ressort de la femme. Le désir de plaire, la facilité d'extérioriser ses sentiments et de dissimuler ses défauts, et l'assimilation qui est l'essence même de la femme. Et ce qui donne encore à la femme une petite supériorité, c'est qu'elle est femme, et que ses qualités physiques l'emportent généralement sur les qualités physiques de l'homme. C'est pourquoi notre art est si beau et si complet, parce qu'il reflète tous les autres arts. Notre art, dis-je, reste un peu inférieur parce qu'il ne peut s'exercer sans la beauté du corps ou du visage. L'acteur et le public. Les relations du comédien et du public ne dépendent pas toujours du talent dépensé. Il est des acteurs sans talent qui ont du succès, il en est d'autres, au contraire, pleins de savoir et d'habileté technique qui ne peuvent sortir de l'obscurité. Je me souviendrai toujours à ce sujet du prix remporté au conservatoire par ma camarade Marie Lloyd. Malgré la monotonie de son débit, la mollesse de sa diction, l'impersonnalité de son jeu, elle avait remporté les suffrages. C'est qu'elle était grande, des épaules frêles et blanches, émergeant avec pudeur de sa robe décolletée. Ses grands yeux mordorés jouaient de la prunelle. Sa bouche petite et ronde envoyait un sourire de côté plein de malice, et son nez, d'un dessin merveilleux, battait des ailes. L'ovale de son beau visage était arrêté à la naissance des cheveux par 2 toutes petites oreilles nacrées et transparentes du plus pur dessin. Un col long, flexible et blanc soutenait cette tête charmante. C'était un prix de beauté qu'on avait décerné à Marie Lloyd, et le jury avait été de bonne foi. Elle était entrée, rieuse et radieuse, dans Célimène, son morceau de concours. Et de Célimène, bien qu'elle n'ait eu aucun talent, elle était la personnification, et se montrait sans effort, coquette à souhait, et coquette de 20 ans inconsciemment cruelle. Un acteur qui incarne un personnage pour lequel il semble avoir été créé est inconsciemment cruel. Un acteur qui incarne un personnage pour lequel il semble avoir été créé a fatalement du succès. Les imperfections de son jeu passent inaperçues et le spectateur a toute son attention absorbée par la vie qui se dégage du jeu du comédien. Mais si celui-ci se borne à remplir un emploi unique, si parfait s'y montre-t-il, le public se lassera de le voir toujours avec les mêmes sourires, les mêmes gestes et les mêmes inflexions. Il est évident que l'action psychique de l'acteur qui construit sur la scène une personnalité superposée à la sienne propre influence plus ou moins violemment la sensibilité collective du public. De même, la mentalité collective des assistants influence favorablement ou défavorablement l'énergie animatrice de l'acteur. Les rouages de ce double échange d'influences fonctionnent dans le mystère, et je ne tenterai pas d'analyser ici les impondérables mis en cause. Je me bornerai à constater, suivant mon expérience personnelle. Je suis ce qu'on appelle une traqueuse. J'ai le trac, un trac fou. Quand je débutais, j'avais de la timidité, mais pas de trac. Je devenais parfois rouge comme un coquelicot quand mon regard croisait celui d'un spectateur. J'étais honteuse de parler si haut devant tant de gens silencieux. Cela venait de mon éducation monacale, mais je n'avais aucun sentiment de peur. La première fois que j'eus la sensation réelle du trac, ce fut au mois de janvier 1869, à la 7e ou 8e représentation du Passant. Le succès de ce petit chef-d'œuvre avait été colossal, et mon interprétation avait charmé le public et surtout les étudiants. Quand je fis mon entrée ce jour-là, je fus soudainement acclamé. Je me tournai vers la loge impériale, croyant que l'empereur venait d'entrer dans la salle, mais non, la loge était vide, et je dus me convaincre que tous les bravos étaient pour moi. Je fus prise d'un tremblement nerveux, et une forte envie de pleurer me picotait les yeux. J'eus un succès fou ce soir-là. Et cependant le doute était en moi. Aurais-je assez de talent pour être l'étoile qu'ils attendent, me demandai-je? De ce jour, la peur s'empara de moi, le trac me martyrisa. Il y a le trac qui paralyse et celui qui affole. Mieux vaut dans l'alternative celui-ci. On fait trop, mais on fait quelque chose. C'est grâce à lui que je remportais un de mes plus grands succès en Angleterre dans une interprétation de Phèdre. J'avais entamé la soirée avec cette idée, si j'allais oublier ce que j'ai à dire. Et ne me possédant plus, je pris ma scène un peu trop haut. Une fois lancé, impossible de redescendre. Je souffrais, pleurais, implorais, criais. Ah oui, je souffrais d'une souffrance réelle. J'étais possédé par un dieu. À la chute du rideau, je tombai évanoui, et Mounet Sully me releva inanimé et me transporta dans ma loge. Je revins pourtant saluer le public en délire, qui, ignorant ce qui s'était passé, me réclamait à grands cris. On me fit une ovation unique, dit John Murray, dans le Gaulois, dans les annales du théâtre en Angleterre. Ah, le succès! De quelle chaîne solide il vous en sert, et comme il est parfois pénible! Que de fois le bruit fait autour de moi, le bien dit en ma faveur, le mal écrit contre moi, créèrent autour de ma tranquillité une atmosphère de bataille. Amis jaloux, ennemis latents ou déclarés, dans quel trouble souvent ne m'avez-vous pas plongé? Et combien de fois ne m'a-t-on pas accusé d'un amour immodéré pour la réclame? Le public se figure que le bruit fait autour des artistes célèbres est provoqué par ces derniers en connaissance de cause, et dans son énervement de revoir sans cesse le même nom revenir à propos de tout, il met en cause la manie forcenée de la réclame. Hélas, on est victime de la réclame. Ceux-là qui goûtent les joies et les tristesses de la célébrité, quand ils ont passé 40 ans, savent se défendre. Ils connaissent ce que cachent les fleurs et ce que valent les potins, les calomnies, les louanges. Mais ceux que la célébrité accroche quand ils ont 20 ans, ils ne savent rien et se trouvent entraînés dans le tourbillon. Pour moi, mon premier titre à la réclame a été mon extraordinaire maigreur et ma fragile santé. J'avais à peine débuté que les épigrammes, les calembours, les caricatures s'en donnèrent à cœur joie. Était-ce vraiment pour faire de la réclame que j'étais si mince, si menu, si faible, que je passais 6 mois dans mon lit, écrasé par la maladie? Mon nom devint célèbre avant moi. Les différents publics ne réagissent pas de la même manière. Pour ma part, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à porter la bonne parole devant les publics étrangers. Depuis de très longues années, j'ai été faire entendre le verbe français jusqu'au bout du monde. Je suis allé dans tous les pays d'Europe, dans les deux Amériques et en Australie. Avant moi, plusieurs artistes français avaient parcouru l'Europe. En général, le public devant lequel nous jouons les pièces françaises dans chaque grande ville européenne est le public sélect, la haute société diplomatique et mondiale, connaissant à peu près la langue française. J'en excepte la Belgique et la Suisse, dont la langue est le français. Donner des représentations à Bruxelles, par exemple, c'est jouer à Paris, et même c'est jouer devant un public de belles premières à Paris. Rien n'échappe à ce public. Ni les beautés de notre langue, ni les finesses, ni la profonde philosophie de nos grands auteurs, ni le verbe magnifique de nos poètes classiques et actuels. Les étudiants sont les mêmes que les nôtres, bruyants, hableurs et enthousiastes. J'adore, et tous les artistes sont comme moi, nous adorons le public de Bruxelles. Les autres villes de Belgique ne sont pas aussi complètement françaises que Bruxelles, mais toutes sont très curieuses de notre art français. Anvers, par exemple, est encore une ville où le public est attentif, délicat et passionné pour nos œuvres littéraires. Le public italien est plus difficile à conquérir. Il s'intéresse peu au théâtre étranger. À Rome, les spectateurs font preuve de délicatesse et de courtoisie et goûtent l'art nouveau qu'on leur soumet. Mais Rome est une ville cosmopolite. Tous les étrangers de haute distinction, tous les artistes de tous les pays s'y donnent rendez-vous. Une représentation donnée à Rome par une compagnie de premier ordre est un régal pour toute la société romaine, et l'impresario est certain d'avoir toujours 2 ou 3 salles bondées. L'artiste se rend compte qu'il joue devant un public intellectuel et raffiné, comprenant toutes les finesses de notre langue. Naples est une ville admirable pour les touristes, mais odieuse pour les artistes, surtout pour ceux qui apportent avec eux le grand art français. Les Italiens ont l'horreur des vers français, surtout l'alexandrin qu'ils trouvent lourd et pompeux. La première fois que je jouais en tournée en Italie, il y a de cela plus de 30 ans, je donnais à Milan une grande représentation de gala pour mes adieux. Nous avions joué toute une semaine à Milan, et le succès avait été considérable. Le public de Milan
est en effet, avec le
public de Rome, le plus intellectuel de l'Italie. Afin de montrer ma gratitude d'un tel accueil, je fis choix de ce que je croyais être les plus beaux joyaux de mon répertoire. J'arrangeai mon programme avec le second acte de Phèdre, le cinquième d'Hernani, le quatrième de Rome vaincue, et je finissais par le Passant. C'était un choix fait pour des cerveaux délicats et littéraires. La salle était bondée. Une pluie de fleurs accueillit mon entrée en scène, mais le rideau baissa dans un silence glacial, interrompu par de petits « Ouah, ouah » et « Bravo, amis ». Phèdre eut le même sort, et Rome vaincue, où je paraissais en vieille aveugle de 90 ans, ne fut pas plus heureuse. Quelques amis venaient me voir pendant les entr'actes et remarquaient ma mine déconfite. Ils essayèrent de m'expliquer que, etc. Un homme éminent d'Italie, écrivain politique et orateur remarquable, vint à moi, les mains tendues. « Mais, s'écria-t-il, quel est le fou qui a fait votre programme ? Je puis vous le dire, ma chère amie, les Italiens ne peuvent pas souffrir vos alexandrins si lourds qui traînent des charrettes vides de poésie. J'espère que votre dernière pièce n'est pas en vers, car nous voulons vous fêter triomphalement, et nous sommes engourdis et figés par des centaines de vers. « Ah !» lui répondis-je, très énervé, « je vais changer la dernière pièce, car le passant est en vers. »« Encore des alexandrins » s'écria-t-il, épouvanté. « Oui, oui, des alexandrins, » répliquai-je, les dents serrées, « et je vais vous donner une autre petite pièce. »« Ah ! Soyez bénie, ma divine, je vais prévenir le public. » Puis, revenant vers moi, « comment s'appelle la dernière pièce que vous allez jouer ?»« Le départ, c'est en un acte, en prose, et assez court, mais charmant. »« Ah, brava, brava !» et il s'éloigna. Et comme ma femme de chambre préparait mon costume du passant, « Laisse tout cela, » murmurai-je, « vite, ma robe, mon manteau, mon chapeau, une voiture. » En sortant, je croise l'impresario qui ne me reconnaît pas. Il était souriant, joyeux, il avait 27 000 francs de recettes, que lui apportait le succès et mon état d'esprit. Mon maître d'hôtel m'avait accompagné, et très heureusement, je trouvai à la porte ma voiture venue plus tôt, craignant que la foule enthousiaste ne l'empêchât d'approcher. Oh, la foule enthousiaste! J'eus à peine le temps d'arriver à l'hôtel. 10 minutes après, la foule se ruait contre les portes. Les cris, les vociférations remplissaient la rue. L'impresario frappait à ma porte et sanglotait des mots articulés dans lesquels les mots « recettes magnifiques »,« argent perdu » éclataient en fanfare de désastre. Je lui avais fait donner l'ordre de rendre l'argent, et je sentais qu'il aimait mieux rendre l'âme. On jeta des pierres dans mes fenêtres, et je m'endormis bercé par les cris de tous les animaux de la création. Nous partions le lendemain matin à 9 heures. Quel ne fut pas mon étonnement de voir à mon réveil la troupe entourant ma voiture dans la rue. Une grande partie de la foule était restée là, et c'est au milieu des vociférations que ma voiture se mit en marche, escortée par l'armée. À la gare, il y avait un détachement de soldats. Je vis arriver l'impresario. Il était si jaune que je compris qu'il avait rendu l'argent. Je restai 25 ans sans vouloir retourner à Milan. Puis un jour, je reçus une députation des jeunes personnes de la ville avec une adresse signée de plus de 5 000 noms. J'acceptai de me rendre à Milan à la condition que je donnerais Phèdre comme première représentation. Je voulais que réparation fût donnée à la poésie française. Phèdre eut une réception triomphale. Et le rideau dut se lever 22 fois après la pièce. Nous étions radieux. Oui, mais tout de même, les Italiens n'aiment pas nos vers français. Vienne, en Autriche, est un des terrains les plus fécondés par notre littérature. On y adore les pièces françaises. Cette tendresse est due à l'initiative d'une charmante princesse qui aimait la France comme une seconde patrie. Je parle de la princesse de Metternich, qui fut, avant la guerre de 1870, l'idole des Parisiens, et qui a continué pendant de longues années, et surtout après la guerre, à tenir le drapeau français dans ses mains aristocratiques. Grâce à elle, pendant de longues années, Vienne est restée une ville ouverte pour notre littérature et un beau champ de combat où nos œuvres dramatiques et nos artistes triomphent toujours. Puis, sourdement, l'influence allemande s'est attaquée à notre puissance d'idées pour finir par établir sa prépondérance et celle de l'esprit allemand. Pendant longtemps, après 1870, j'avais refusé d'aller jouer en Allemagne, malgré toutes les propositions qui m'étaient faites. Nos malheurs sanglotaient encore dans mon cœur, et j'eus avec un ambassadeur d'Allemagne au Danemark une violente altercation. Dans un grand dîner qui m'avait été offert par le roi de Danemark, on plaça l'ambassadeur près de moi. Cet homme était charmant et adorait les arts, mais il manquait de tact. Je répondis au toast qui m'était porté par quelques mots heureux, et mon voisin allemand, enthousiasmé, arracha son aigle de Prusse de sa poitrine et voulut l'attacher à mon corsage. Mon sang français bouillonna sous cette injure involontaire et j'écrasai sous mes pieds l'aigle de Prusse. Il en fut beaucoup parlé, beaucoup écrit en Allemagne, et tous les pamphlets servirent de banderole à mon nom. Il y a quelques années, c'est-à-dire plus de 10 ans avant la guerre de 1914, une députation d'Alsace-Lorraine vint me supplier de jouer à Strasbourg, Mulhouse, etc. J'acceptai tout de suite. Mais dès que les représentations furent annoncées, défense fut faite de les afficher. Et un personnage du gouvernement allemand vint me prévenir que l'autorisation de jouer en Alsace-Lorraine ne me serait accordée que si je jouais, ne fût-ce qu'une fois, à Berlin. Victorien Sardou se trouvait là. Il discuta vivement avec le représentant du gouvernement allemand, au demeurant homme courtois et plein d'esprit. Je refusai cependant de me rendre à ses exigences. Et ce ne fut que 2 ans après que je me décidai à aller jouer à Berlin. Le comité de la paix venait au nom des Alsaciens lorrains. L'adresse qui me fut lue était si touchante que j'acceptai. Ce fut un tollé de joie heureuse qui éclata dans les feuilles de Berlin. Mes représentations annoncées au Schauspielhaus, le théâtre impérial de Berlin, furent la traînée de poudre. Toutes les places furent enlevées, et 2 jours après l'annonce des représentations, il ne restait pas le moindre strapontin à la disposition du public. Des places achetées et revendues par des agioteurs furent payées des prix exorbitants. La haine se déchaînait. Un attaché de l'ambassade de France m'envoya la photographie qu'il avait prise représentant le public qui envahissait le bureau de location et la foule attendait et barrait les rues adjacentes. La police à cheval avait été requise. C'était très amusant à voir. Mon arrivée à Berlin avait été signalée et la foule qui encombrait les quais et la rue était menaçante mais silencieuse. À la porte de l'hôtel, une foule un peu plus cosmopolite et moins barbare. Une jeune fille s'avança pour me remettre des fleurs, mais une brute les lui arracha des mains. Il y eut un murmure réprobateur dans la foule. J'embrassai l'enfant. Le soir de cette première représentation est inoubliable pour tous ceux qui y ont assisté. J'avais choisi Fedora, pièce qui était alors jouée par l'idole de Berlin avec un grand succès. C'était intentionnellement que j'avais fait ce choix. C'était une bataille à livrer. Et moi qui suis si traqueuse, je n'avais pas peur, car le trac est curieux chez moi. Devant un public que je sens malveillant pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas le trac. Je n'ai qu'une idée, qu'une volonté, dompter le récalcitrant. Devant un public bienveillant, au contraire, j'ai peur de me montrer au-dessous de ce qu'il attend de moi, et le trac me saisit impérieusement. Donc, pour cette représentation, la police avait été triplée. Les autorités étaient inquiètes. Je ne voyais que des visages pâles et torturés. Les artistes, réunis par petits groupes, parlaient à voix basse. Mademoiselle Sellor, qui jouait le petit Moujik, sanglotait, et un instant avant le lever du rideau, je l'entendis qui disait à l'impresario « Il ne faut pas qu'elle entre, il faut même s'en aller, il va arriver un malheur. » Enfin, le rideau se leva lentement, et le pauvre Moujik, secoué de sanglots, entra en scène en annonçant « La princesse Fedora ». La pesanteur lourde de la minute qui précède l'orage, le grondement ouaté des lointains appels de la foudre, peuvent seuls vous donner une idée de ce que fut la rumeur de cette foule. J'entrai et restai un instant interdite. J'attendais la manifestation hostile et bruyante. Un silence morne, froid, avait pris la place de la rumeur. Pas le moindre mouvement. L'acte se déroula avec ses péripéties émouvantes sans que le silence fût troublé. Puis le rideau tomba sur les cris déchirants de la princesse affolée de douleur sur le corps de son fiancé. Une seconde se passa, puis une voix mâle s'écria « Admirable !» et l'orage qui menaçait éclata d'une façon imprévue dans une acclamation admirative sous des tonnerres d'applaudissements. On releva le rideau 5 fois. Le public brillant et diamanté était debout, ému, vibrant, enthousiaste. La soirée se continua dans une superbe ovation. Des étudiants allèrent dévaliser un fleuriste et couvrir la scène de fleurs. Soulevé par cet amour que je venais d'éveiller, je sentis le dieu me frôler de son aile et je centuplais dans le reste de la pièce mes facultés d'extériorisation. Au dehors, une foule curieuse attendait, maintenue par la police à cheval. J'étais debout dans une voiture, saluant et remerciant, quand des cris de « Vive la France ! Vive la France !» me poignardèrent d'une telle joie qu'à mon tour j'éclatai en sanglots. Ce cri exclamé par des bouches qui ne voulaient s'ouvrir que pour l'injure, ce cri de « Vive la France !» poussé par des poitrines allemandes, fut un des plus émouvants triomphes de ma carrière. Je donnai à l'opéra une représentation de Phèdre qui fut une suite ininterrompue d'ovations. Il faut reconnaître que le public allemand n'est jamais insensible à l'art, ni à la profondeur de la pensée. C'est certainement un public de qualité supérieure au point de vue de l'émotion. J'ai été souvent en Angleterre. Le peuple anglais est, à mon avis, le peuple le plus hospitalier du monde. Il l'est simplement, largement. Quand il a ouvert sa porte, l'anglais ne la referme jamais. Il excuse vos défauts et accepte vos travers. Et c'est grâce à cette largeur d'idées que je suis resté depuis plus de 25 ans l'artiste aimé et choyé. Quelques soirées à Londres peuvent passer pour les plus belles de ma carrière. Depuis ma première visite avec la Comédie-Française, j'y suis retourné 20 et quelques fois. Toujours le public m'a accueilli de la plus touchante manière et s'est montré fidèle et même affectueux. Le public américain n'est pas de même sorte que le public anglais. Il fait tout en grand. Ah, mon débarquement en Amérique, cette foule aux milliers de mains qui ont serré les miennes à les briser. Ces reporters tyranniques, que mangez-vous à votre réveil, madame? Êtes-vous juive, catholique, protestante, mahométane, bouddhiste, athée, zarouste, théiste ou déiste? Et la douane? Une armée de douaniers pour fouiller mes 42 malles. Enfin le public, le vrai public de théâtre. Les représentations que je donnais à New York furent données devant des salles enthousiastes. Mais puis-je donner un exemple plus complet de l'émotion admirative de la foule que par la relation de la dernière représentation avant mon départ pour Boston? Quand j'arrivai au théâtre, ce samedi 4 décembre, en matinée, ma voiture s'arrêta 20 mètres avant l'entrée. Elle ne pouvait plus avancer car la rue était encombrée de dames assises, les unes sur des chaises empruntées au magasin voisin, les autres sur des pliants apportés par elles-mêmes. Je mis 25 minutes pour parvenir à l'entrée des artistes. On me serrait les mains, on me suppliait de revenir. Une dame retira sa broche et l'accrocha à mon manteau. À chaque pas, j'étais retenu. Une dame eut l'idée de sortir son calepin et me pria d'écrire mon nom. Ce fut comme une traînée de poudre. De très jeunes gens me firent écrire mon nom sur leurs manchettes. Je n'en pouvais plus. On me chargeait les bras de petits bouquets, de gerbes. Je sentis derrière moi que quelqu'un tirait un peu fort sur mon chapeau. Je me retournai vivement. Une femme, ayant à la main une paire de ciseaux, avait essayé de me couper une mèche de cheveux. Mais elle coupa ma plume. Il fallut chercher des détectives pour me délivrer. Ils le firent d'ailleurs sans courtoisie, en véritable brute. Je jouai la dame aux camélias. Je comptai 17 rappels après le 3e acte et 29 après le 5e. La pièce, grâce aux rappels et aux applaudissements, avait duré 1 heure de plus. J'allais sortir lorsque mon impresario, Jarrett, vint me prévenir que plus de 5000 personnes m'attendaient dehors. Grâce à un subterfuge, ma sœur mit mes vêtements, je pus m'échapper à ce despotique enthousiasme. Ma sœur fut prise pour moi, tandis que je pus monter inaperçue dans une voiture. Elle rentra à l'hôtel 1 heure après moi, brisée de fatigue, mais très amusée de son succès. J'allais aussi à Boston. Là, les femmes sont en majorité. J'y passai 2 semaines, pleines de charme, l'esprit toujours en éveil avec les bostoniennes. Elles sont puritaines, mais sans amertume et avec indulgence. Chastes et réservées, les réserves de leur cœur se dépensent en intellectualité. Elles adorent la musique, le théâtre, la littérature, la peinture, la poésie. Les représentations que je donnais à Boston eurent lieu devant une assistance considérable. Les places avaient été mises aux enchères et avaient atteint des prix considérables. À Montréal, au Canada, je trouvais aussi un public plein d'enthousiasme, qui avait un charme particulier de jeunesse et d'entrain qui me frappa. On m'envoyait, dans des corbeilles, glissant du haut de la salle à la scène, des fleurs et des colombes. On entonnait, en mon honneur, des chants d'hiver, dont la Marseillaise. L'évêque de Montréal avait fulminé contre moi et s'était répandu en attaques calomnieuses, aussi bien contre mes camarades et moi que contre l'art français. Pour répondre à ces injurieuses harangues, les admirateurs de la France et de l'art français dételèrent mes chevaux et mon traîneau fut presque porté par une foule immense dans laquelle se trouvaient les députés et notables de la ville. Toutes les autres villes d'Amérique où je suis passé, grandes ou petites, m'accueillirent de la même façon. Quelques évêques ou pasteurs nous accusaient d'apporter la perdition des âmes. Et la foule accourait d'autant plus nombreuse et admirative que la semonce avait été plus sévère. Mais que de fois je me suis senti envahir par la fureur devant les indiscrétions de la réclame. Que d'insensés reporters je ne pus me retenir d'invectiver. Que d'hommes sandwich j'aurais voulu déchirer. Je n'étais pas faite pour cette outrancière publicité aux moyens formidables. Je ne pouvais m'y habituer. Et pourtant, on me représentait comme l'instigatrice de tout ce bruit fait autour de moi. C'est le lot des inévitables calomnies qui me suivaient. Je veux les oublier et ne me souvenir que de l'amour spontané du public de tous les pays que j'ai visités. Qui salua en moi le porte-parole de la poésie claire et pleine de charme du génie français.
Fin de ce début de la partie 3.